BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs, aujourd'hui Benaouda Abdennaïm avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier et dans toutes les langues. Et notre visiteur du futur, là ce sera en l'occurrence un visiteur du passé pour les livres d'hier et de demain, ce sera Frédéric Simotel. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, Librairie de l'écho, que ce soit sur Instagram, sur X, Facebook, LinkedIn, YouTube, vous aurez tous les programmes et toutes les références des livres dont on vous parle dans l'émission. Vous aurez des vidéos et plus encore. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Eh bien non, pas d'intelligence artificielle, pas de transition écologique aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Je sais que j'ai reçu quelques courriers de quelques-uns d'entre vous qui nous disaient « Bon, on a beaucoup parlé de transition écologique et d'intelligence artificielle ces derniers temps. » Eh bien donc, allez, je vous dis pas qu'on n'en reparlera pas. Mais on passe aujourd'hui à autre chose, on va s'armer aujourd'hui dans la librairie de l'écho, d'abord pour comprendre les nouvelles règles du jeu économique mondial imposées par l'entrée en économie de guerre, et vous verrez que la notion va bien au-delà de la guerre en Ukraine. Et puis on va s'armer aussi contre la paresse intellectuelle qui nous conduit à sombrer dans une civilisation de la peur et qui nous conduit inéluctablement dans un monde de chaos, alors que nous avons toutes les cartes en main pour vivre mieux demain qu'aujourd'hui. Bonjour David Babrez.
Bonjour.
David, vous êtes investisseur, essayiste et vous publiez Bienvenue dans l'économie de guerre. C'est aux éditions Novice, jeune maison d'édition qu'on salue d'ailleurs et à qui on souhaite une longue vie. Et puis Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Nicolas, vous êtes essayiste, fondateur du cabinet Asterès et vous publiez La civilisation de la peur aux éditions XO. On commence avec vous, David Babrez. Vous dites, nous sommes en train de refermer finalement la parenthèse enchantée de la période qui a commencé en 1989 avec la chute du mur de Berlin. On était dans une économie de paix et on est en train de basculer dans une économie de guerre. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement?
Alors on ferme le cycle de 30 ans, on oublie, l'économie c'est 30 ans, hein, c'est un cycle de 30 ans. Donc 2022, deux événements majeurs, la guerre d'Ukraine qui est en fait un conflit sino-américain, quand on vit à Hong Kong comme moi on comprend, et puis deuxièmement le 20e congrès du Parti communiste à Pékin. Et ça fait qu'on passe effectivement d'une économie de paix à économie de guerre. Alors, ça veut dire quoi? C'est que l'économie de paix, vous êtes tiré, ce qu'on a toujours connu, vous êtes tiré par le consommateur, ouais, la demande. L'économie de guerre, c'est la pénurie, vous êtes tiré par la production. Donc vous avez un transfert de valeur énorme du consommateur vers la production. Donc ce qu'on a vu dans les semi-conducteurs avec TSMC, nous allons le voir partout dans toutes les activités économiques.
Alors c'est ça, vous déclinez en fait dans votre livre tous les mécanismes qui changent et j'ai presque envie de dire toutes les perspectives qui s'inversent finalement dans, dans cette économie de guerre.
C'était une économie d'abondance et une économie de pénurie, c'était la confiance, on passe à la méfiance, c'était la déflation, on passe à l'inflation, c'était le rapport de force, on passe à la dépendance, c'était l'état de droit, on passe à l'arbitraire. Donc, en fait, tout s'inverse. Et c'est là, justement, où il faut qu'on ait un kit. Le but de ce livre, c'est de donner au lecteur le kit de survie dans l'économie de guerre. Parce que c'est pas la guerre, c'est l'économie de guerre. C'est pas la même chose. Il y a les transferts de valeur, faut qu'on se débrouille pour être du bon côté.
Alors, vous dites d'abord, dans cette économie de guerre, parce qu'on va prendre les sujets les uns après les autres, les critères de performance des entreprises ne sont plus les mêmes.
Oui, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il faut qu'on change l'ESG, qui a été le critère, le fameux environnement social gouvernance, qui en fait nous mène contre un mur, on s'en aperçoit maintenant, sur les Américains qui nous ont imposé. L'idée est géniale au départ, mais elle a été complètement dénaturée, et je dis le vrai kit maintenant, c'est énergie, sécurité, guerre, parce que l'économie de guerre, c'est pas... Le président de la République veut vous faire croire que c'est 2% du PNB, c'est juste la défense et la famille d'assaut. Mais l'économie de guerre, c'est 100% du PNB. Ça, c'est l'affaire de tous. Les gouvernements, les entreprises, et vous et moi en tant que citoyens.
Alors vous dites que l'ESG, ça nous a été envoyé par les Américains, mais aujourd'hui les héros les plus zélés de l'ESG, c'est quand même les Européens.
Ben oui, parce que les Américains, le plus gros investisseur du monde n'a voté que 20%. C'est lui qui a poussé la iThink, c'est lui qui a poussé l'ESG il y a 10 ans comme élément marketing. L'an dernier, il a voté seulement oui à des résolutions ESG en AG seulement à 20%. Donc vous voyez bien qu'on est en... Prenez la CSRD en Europe, qui est un truc, mais...
Réexpliquez-nous de quoi il s'agit.
C'est une directive européenne. Il faut que... Moi, je suis administrateur de société. Il faut que le 1er janvier 2025, on ait 1200 indicateurs de non financiers de performance qu'on doit mesurer mensuellement. Il n'y a pas un client qui nous les demande. Donc c'est ça. Il faut qu'on arrête. Ça ne sert pas à produire tout ça. Et donc, tout le but de l'ESG, c'est de construire en fait un nouveau contrat social qui va payer un contrat social pour les vieux, ce qu'on a fait les 30 dernières années. Les retraites ont explosé à la hausse. Moi, ce que je veux, c'est un contrat social pour les jeunes. Et donc, le transfert de valeur, il ne va pas aller des jeunes aux vieux comme les 30 dernières années, mais il va aller des vieux aux jeunes.
Alors comment vous organisez cette inversion des flux habituels ?
Eh ben, c'est très simple, regardez mon cas. J'ai un éditeur qui a la moitié de mon âge.
Ouais.
Donc moi je pensais, c'est très marrant quand vous écrivez un livre, je ne sais pas si vous avez écrit un dans votre vie, mais c'est une aventure. Il y a toujours des trucs qui se passent. Donc moi je pensais qu'un éditeur c'était un vieux schnock qui éditait les brillantes idées d'un jeune. Là j'ai un brillant jeune qui édite le vieux schnock. Vous n'allez pas me dire que le monde n'a pas changé. Et donc moi à la librairie de l'écho, qu'est-ce qu'on fait pour être dans le rayon jeunesse? Parce que je veux surtout pas être dans le rayon géopolitique, je veux être dans le rayon jeunesse parce que il y a, enfin vous voyez bien, il y a un nouveau contrat social à monter.
Ouais. On n'a pas de rayon jeunesse dans la librairie de l'écho.
Il y a le rayon
des vieilles idées et le rayon des idées nouvelles. Il y a tout un tas de rayons, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rayon jeunesse. Vous parlez de chaos compétences.
Oui.
Qui doit remplacer l'accord compétences.
Oui, alors
déjargonnez-nous ça.
Alors, désolé pour le franglais, mais l'accord compétences, c'est la compétence clé, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une compétence, vous êtes journaliste économiste, ouais. Et donc vous n'avez pas le droit d'avoir un avis dans un autre sujet.
J'ai creusé un petit sillon et j'ai un petit savoir-faire.
Exactement, voilà. Et en fait on rentre dans la planète du chaos, ça va pas être un monde bipolaire, ça va pas être un monde multipolaire, c'est un monde où l'Arabie Saoudite, le matin, achète des armes aux États-Unis, à midi négocie le prix du pétrole avec la Russie et le soir fait des transactions commerciales avec la Chine. Voulez-vous me dire dans quel bloc mettez-vous l'Arabie Saoudite ? Donc ça n'a plus de sens ce concept de pôle, de multipôle. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on change complètement notre caisse à outils.
Alors,
et c'est tout le but de ce livre. Ce livre il va pas plaire aux think tanks parce que c'est un livre pour action tank. Ce que je veux c'est, et d'ailleurs je prends, alors moi j'ai, je suis pas du tout la civilisation de la peur. Moi, je prends un risque parce que je suis investisseur. J'explique dans la post-phase, si vous ne changez pas votre manière de penser, décision que vous prenez après le livre, je vous le rembourse. Donc, je prends un risque. Vous voyez.
Alors, justement, sur les choses qui changent, vous dites, on doit reprendre le contrôle des risques. On réintègre verticalement au lieu de sous-traiter. C'est-à-dire que ça, c'est toute la logique, en fait. De l'éloignement qu'on a connu depuis que la mondialisation s'est propagée. La logistique du just-in-time doit être remplacée. Alors là encore, vous allez nous décrypter. Vous avez de la chance que vous habitez à Hong Kong et que vous avez des excuses pour nous employer autant de mots en anglais. Le just-in-time...
J'ai pas mis beaucoup de chinois, j'ai été sympa.
Face au just-in-time, vous mettez maintenant le just-in-case. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, mais le S de social qu'on avait dans le ESG d'hier, c'est génial. Le social, de répartir la richesse de la meilleure manière, mais encore faut-il la créer. Et vous ne pouvez pas la créer si vous n'êtes pas en sécurité. La sécurité, c'est le contrôle. Donc tous les patrons que vous allez rencontrer, ils ont un problème aujourd'hui, c'est que dans les 10 dernières années, ils ont abandonné une partie du contrôle de leur entreprise en sous-traitant partout dans le monde à travers des places de marché. Et aujourd'hui, ce contrôle, vous devez le regagner. Donc quand vous êtes un politique, vous parlez de souveraineté, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que le dernier souverain, on lui a coupé la tête, donc personne n'est souverain aujourd'hui.
Mais
vous êtes dépendant, et tout le jeu, c'est de tourner vos dépendances en interdépendance. Et typiquement, c'est ce que l'Europe doit faire avec la Chine.
Donc ce que vous dites, c'est
donc vous passez de dépendance à interdépendance.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que, en gros, on est sorti de 40 ans où la priorité, c'était l'éloignement, l'éclatement des processus de production. Et aujourd'hui, on se dit, la valeur cardinale, ça redevient la proximité. Vous vous dites, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est pas forcément la proximité.
Non, pas du tout. La souveraineté, c'est la dépendance. L'économie de paix, vous êtes en rapport de force. Si j'ai une négociation avec vous, on est juste en rapport de force. L'économie de guerre, vous êtes en dépendance. Souvenez-vous, les masques chinois en mars 2020, vous commencez le 1er mars, ça vaut un centime, le 30 mars, ça vaut un dollar. Les Chinois ont fait 100 fois la mise en un mois sur nos dos parce que nous étions dépendants. Donc tout le jeu, et c'est le jeu que fait la Chine avec l'atelier du monde, tout le jeu de l'économie de guerre, c'est il faut que vous soyez dépendant de moi, vous n'avez plus le choix.
Ce qui compte...
Et donc c'est le fournisseur, ouais. C'est le fournisseur qui dicte les règles à son client. C'est pour ça que tout s'inverse.
Et donc dans ce monde-là, ce que vous dites, c'est que ce qui compte, c'est pas d'avoir les coûts les plus compétitifs, c'est d'avoir le pouvoir de faire le prix. Pricing power pour.
Exactement.
Vous savez qu'on a des gens qui nous écrivent parce qu'on utilise trop de mots anglais. Je sens que je vais prendre des courriers encore.
Mais ils ont bien raison. Tout le but, c'est que je veux que vous soyez dépendant de moi, et y compris dans la manière dont je vais formuler mes prix.
Quand vous dites il faut passer du value for money au money for value.
Oui, parce qu'on essaie de vous passer de la déflation. Donc, ouais. Ce qu'on a fait, souvenez-vous, le cycle précédent, on a dit aux consommateurs, la bouffe, faut que ce soit moins cher. Bon, bah, il y a un moment où on a fini avec du cheval au lieu du bœuf, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. La structure de coût était devenue intenable. Et aujourd'hui, tout le jeu, c'est d'en fait de pricer la valeur que je vous crée. Bah, le prix n'est plus déterminé par les coûts, il est déterminé par la valeur, le bonheur que je vous crée avec mes produits et services.
Vous dites maintenant la prime va à la sûreté et plus au volume vendu.
Exactement. Puisque vous voyez bien les masques, vous avez la sûreté d'avoir des masques, je peux vous exiger de vous ce que je veux.
Alors la question, David Bavrès, c'est quand même à qui profite finalement ce basculement vers l'économie de guerre ? Est-ce que c'est à la Chine ? Est-ce que c'est aux États-Unis ? Et puis quelle est la place de l'Europe dans tout ça ?
C'est celui qui produit. C'est celui qui est produit, c'est pour ça que le président Xi a commencé il y a 12 ans et qui est devenu l'atelier du monde. La Chine, c'est 15% de la consommation mondiale, mais c'est 30% de la production mondiale. Donc c'est pour ça que la Chine a avec nous, Européens...
C'est bien ça son problème aujourd'hui, si je devais vous taquiner.
Parce qu'on ne sait pas négocier. Bien évidemment que ça devrait être le problème, mais on ne sait pas négocier. Et donc les États-Unis l'ont compris en 2022, où ils ont coupé la haute technologie à la Chine, en disant « vous ne pourrez jamais produire la haute technologie », et nous, Européens, on commence à se réveiller. Donc c'est là qu'est l'espoir, et c'est pour ça que j'espère bien que ce livre va faire que l'Europe va accélérer son réveil. Ce que disait Paul Valéry, que je cite, la meilleure façon de...
Très bon, elle est excellente cette citation.
La meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller.
Juste pour terminer, ce basculement vers l'offre va s'accompagner d'un choc de demande d'une magnitude trois fois supérieure à celui de 1974.
Oui, souvenez-vous, vos parents ont perdu leur style de vie en 73-75, quand l'énergie a le prix a quadruplé. C'était un choc de 3% de PNB. Nous, quand vous additionnez le choc énergétique, la transition environnementale, désolé d'en parler, ces supply chains, enfin ces chaînes d'approvisionnement qu'il faut réorganiser, l'inflation alimentaire, c'est trois fois. Donc, on ne va pas garder notre style de vie. Nous allons perdre notre style de vie comme nos parents en 73-75, mais on va le réinventer.
Voilà, c'était ma question, Nicolas Bouzou. Est-ce que de tout ça, il faut avoir peur? Parce que c'est votre point de départ dans votre livre. Vous dites qu'il y a un marché de la peur qui prospère. Et en même temps, on se dit, mais bon, jouer sur les peurs, etc. Est-ce que c'est si nouveau que ça?
Non, c'est pas jouer sur les peurs, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les moyens de propager la peur sont beaucoup plus puissants qu'ils l'étaient il y a 20 ou 25 ans. Les chaînes d'info en continu, par exemple, propagent évidemment de la peur. Les réseaux sociaux, c'est très intéressant. On sait, c'est parfaitement documenté, qu'une nouvelle se propage d'autant plus vite et d'autant plus sur les réseaux sociaux qu'elle est catastrophique, indépendamment de son niveau de fiabilité, ce qui est quand même quelque chose qui devrait nous faire réfléchir très en profondeur. Donc ça, c'est une grande différence avec la presse qui est censée filtrer les informations. Donc la peur, si vous voulez, va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus d'outils pour mettre de la peur dans la société.
Sinon, est-ce que la période est vraiment si compliquée et si angoissante que ça?
Alors moi, mon idée, c'est qu'on pourrait prendre une frise chronologique derrière, on met le doigt au hasard en fermant les yeux n'importe où, et je vous trouve autant de problèmes qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y a toujours eu des problèmes, le monde est ainsi fait qu'il y a des conflits, qu'il y a des angoisses, qu'il y a des problèmes technologiques, etc. Mais ce que je veux quand même rappeler, c'est que, en fait, quand on regarde les choses historiquement, si on prend du recul, en fait, l'humanité se débrouille pas mal pour combattre les difficultés auxquelles on fait face. On est toujours là, on est toujours dans un monde de progrès. Ça, c'est très important de rappeler ça. Quand vous regardez la malnutrition, elle recule, elle n'a jamais été aussi faible. Vous regardez la très grande pauvreté, ce qu'on appelle la pauvreté extrême, elle recule, elle n'a jamais été aussi faible. Vous regardez les inégalités. Personne ne le sait, hein. Les inégalités dans le monde, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi basses. Ce qui est logique, d'ailleurs, puisque, en fait, les revenus dans les pays les plus pauvres augmentent plus vite que les revenus dans les pays les plus riches. Le taux d'alphabétisme d'alphabétisation n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui.
Tout ça, Nicolas, c'est vrai à l'échelle du monde.
Oui.
Mais est-ce que nous, dans notre peau d'occidental, est-ce que finalement, il n'y a pas cette idée que c'est nous qui, au contraire, sommes les perdants de tous ces gains par ailleurs, quoi.
Ouais.
Et c'est notre déclassement, peut-être, à nous, Européens, qui nous fait peur.
Alors, là, vous avez dit deux choses différentes. Vous avez parlé de l'Occident et de l'Europe. Il n'y a aucun déclassement occidental. Alors, c'est sûr que si on regarde la part du PIB occidental sur le PIB mondial, il a diminué. Mais c'est bien, puisque les pays émergents, surtout la Chine d'ailleurs, ont connu énormément de croissance ces 30 dernières années. Mais aujourd'hui, l'idée qui consiste à dire l'Occident cumule tous les problèmes, et en revanche, la Chine, la Russie, la Turquie, ça va, c'est faux. En Russie, j'ai déjà lu deux fois le livre, l'excellent livre de David Bavrès, parce que je suis lent, j'ai besoin de lire plusieurs fois pour retenir. Je parle sous votre contrôle, vous expliquez parfaitement bien le fait qu'il y a des difficultés économiques en Chine qui sont nouvelles et qui sont structurelles. Alors, la Turquie a un problème d'hyperinflation. La Russie, pardon, mais faut vraiment avoir une capacité d'autoflagellation extraordinaire, qui là pour le coup est très occidentale, pour m'expliquer que tout va bien en Russie.
Donc en fait, ce que vous dites, c'est que les États-Unis
n'ont
aucune raison de s'inquiéter.
Bah, ils ne s'inquiètent pas d'ailleurs.
Et il s'inquiète pas. Et c'est vrai que finalement, c'est un peu...
Le problème, il est européen.
Le problème, il est européen.
Voilà, le problème, il est européen. C'est-à-dire qu'il y a un déclassement relatif de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et pour des raisons que vous deux, vous connaissez par cœur, parce que ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc, on sait qu'on a notamment un manque d'innovation, manque de productivité. Mais je veux dire, tout ça est un peu entre nos mains, si vous voulez. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. On pourrait résoudre ces problèmes. Hein,
En fait, c'est vrai. Alors, votre message, c'est très clairement... l'avenir ne sera ni apocalyptique ni merveilleux, il sera ce qu'on en fera.
Bah oui.
Mais quand même, avec vous fixez la barre assez haut et vous dites en 2050, un monde plus démocratique, un travail moins pénible, une meilleure santé, un réchauffement climatique maîtrisé, ça reste aujourd'hui possible.
Non, je pense que c'est probable. Je pense que c'est je ne suis pas sûr.
Probable.
Non, je ne suis pas sûr. Que ça arrive, le futur est incertain, mais je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. Le réchauffement climatique, on va très vite dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les émissions carbone des pays développés sont revenues à leur niveau du début des années 70. Si les émissions carbone augmentent dans le monde, c'est parce qu'elles augmentent encore en Chine et en Inde, mais en Chine, elles vont baisser, je parle sous le contrôle de David, à partir de 2029-2030. Il y a énormément d'investissements dans le renouvelable, dans le nucléaire,
mais voyez,
etc.
C'est là où on a une vision fausse, c'est-à-dire que cette transition écologique, tout le monde voit ça comme quelque chose de très linéaire. Alors qu'effectivement, on voit bien que ça va se passer par à-coup et par progression exponentielle.
Vous avez un pays aujourd'hui, un pays qui est sur la trajectoire de la neutralité carbone à l'horizon 2050.
Ouais.
C'est le Royaume-Uni. Ah, c'est pas le Venezuela, hein. Je n'en déplaise aux insoumis. C'est pas le Bhoutan, n'en déplaise aux décroissants. Moi, je suis un libéral. C'est le Royaume-Uni. Parce que c'est là qu'on investit beaucoup dans les technos de décarbonation. Et les Américains sont en train de décarboner très très rapidement leur industrie, hein.
Alors. On pourrait dire que l'histoire vous donne raison, parce qu'en fait, quand on fait le match à l'échelle de l'histoire entre les optimistes, finalement, et les pessimistes, c'est quand même souvent les optimistes qui gagnent.
Moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que...
Vous avez plusieurs chapitres dans votre livre où vous revenez sur Malthus, etc. Et clairement...
Moi, je suis dans le débat public depuis 20 ans maintenant, et quand vous osez dire qu'il y a quelque chose qui s'améliore ou qui va pas si mal que ça... Vous passez grosso modo pour un imbécile. Enfin, je schématise, mais si vous voulez avoir l'air intelligent dans le débat public, il faut expliquer que les inégalités explosent, qu'on va vers l'effondrement climatique et que la France devient un pays fasciste. Grosso modo. Et là, ça vous donne l'air tout de suite sérieux, intelligent. Mais quand on regarde, quand on fait de l'histoire longue, j'ai consacré un chapitre à ça. Les prédictions des pessimistes, Malthus, Paul Ehrlich, Al Gore, ils se sont toujours trompés. En fait, ce sont ceux qui passent pour des imbéciles, pour des naïfs, pour les ravis de la crèche. Quand ils déploient leurs arguments, ce sont eux qui, historiquement, ont eu raison.
Ah, le pessimisme...
Je préfère être dans ce camp. Hein.
C'est parfois une forme...
Une forme de snobby, ça donne l'air intelligent.
Et puis c'est une forme de lucidité, un petit peu... Ça passe pour un peu de lucidité.
Ça, c'est super facile.
Alors, vous citez aussi quand même... Il y a un sujet peut-être plus relatif et un sujet plus préoccupant. Il y a aussi le rôle des intellectuels. Et là, vous dites, alors pareil, les intellectuels, ils sont systématiquement négatifs.
Alors, je ne fais que reprendre un très grand livre de Raymond Aron qui s'appelle « L'opium des intellectuels » dont j'actualise la thèse, et qui explique que l'intellectuel français s'est construit, en fait, contre le système, mais quel que soit le système. Donc aujourd'hui, notre système, c'est la démocratie libérale, donc l'intellectuel français est contre la démocratie libérale, grosso modo. Mais, petite spécificité amusante de la France, Raymond Aron, et je pense que c'est toujours vrai, alors je me fais détester des universitaires, etc., quand je dis ça, mais c'est pas grave. La France est le pays où les intellectuels ont la plus haute opinion d'eux-mêmes. Ce sont eux qui ont les salaires les plus bas. Et donc, l'écart entre la condition matérielle et la condition matérielle et la valorisation symbolique de l'intellectuel, c'est en France qu'elle est plus importante. Dans les pays anglo-saxons, les intellectuels sont beaucoup mieux payés. Ils sont peut-être moins considérés, mais ils sont beaucoup mieux payés. Et donc, ça crée un ressentiment contre le système.
Alors, plus insidieux.
Et contre les gens comme moi qui sont des intellectuels du dimanche.
Ouais, plus insidieux, et parce que c'est un poison sans doute à la fois plus lent mais plus violent, c'est quand même la perte de confiance dans la parole et dans l'action publique.
Oui.
Et ça, c'est quand même un phénomène qui est plus récent.
Oui, c'est un vrai problème en fait. Moi, je me fais souvent cette réflexion, je vous le dis comme je le pense, mais quand j'entends des gens dont je partage les idées dans le champ politique, je me dis, en fait, le problème, c'est que c'est pas intéressant. C'est que leur narratif n'est pas percutant. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré une partie du livre à des discours parlementaires qui sont issus d'une anthologie de Jean Garrigue sur les grands discours parlementaires depuis le 19e siècle. Et en fait, vous voyez que c'est possible d'être pertinent, d'être mesuré et intelligent. Tocqueville, Lamartine, 19e siècle, bon là c'est facile, Jacques Chaban-Delmas, relisez-le, je suis sûr que le discours sur la nouvelle société, c'est passionnant, c'est bien écrit, c'est génial en fait. C'est un discours grandiose et c'est, je ne veux pas parler pour nous, mais enfin, je nous connais un peu, c'est grosso modo quand même des valeurs et des idées qu'on partage, mais qui sont exprimées d'une façon qui puisse entraîner la société. Donc ils sont assez éloignés du discours un peu managérial, du discours définalisé qui est celui du cercle de la raison aujourd'hui.
Vous êtes assez confiant dans l'avenir du capitalisme et on peut que partager votre point de vue quand on voit finalement que sa magie, entre guillemets, c'est peut-être sa plasticité.
Oui, c'est ça, ouais.
Et sa capacité à s'adapter. Et est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste sur l'avenir de la démocratie? Parce que paradoxalement, le capitalisme s'accommode très bien de ne pas vivre forcément dans des régimes démocratiques.
Je suis pas sûr. J'ai lu dans le livre de David Bavresque qu'au fond, aujourd'hui, le président Xi Jinping était quand même très gêné de cette expansion économique très importante de ces 30 dernières années, qu'il craignait que la Chine évolue vers une situation à la coréenne ou la japonaise, ce qui voudrait dire quand même que l'évolution spontanée des choses, ce serait de réconcilier la liberté économique et les autres libertés. Et donc, je suis pas sûr, pour le coup, d'être d'accord avec vous. J'observe aussi qu'il y a des mouvements antidémocratiques qui sont très forts dans le monde, en Russie, en Turquie, etc. Mais vous avez aussi des mouvements de résistance, des mouvements démocratiques qui sont incroyablement forts. Bah, l'Ukraine, les femmes iraniennes, pardon, mais qui enlèvent leur voile, quel acte de courage, pour vivre selon les valeurs qui sont les valeurs des Lumières. Et elles risquent leur vie. Elles le payent, d'ailleurs, assez souvent de leur vie. Donc, cette aspiration à la liberté, elle est très forte, moi, je trouve.
Alors, quand même, Nicolas Bouzou, moi je vois bien l'objectif, le 2050 que vous nous fixez, effectivement, mais je vois pas le chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la façon dont on s'y prend pour inciter à aller vers la transition écologique, qui en réalité a pas vraiment vraiment démarré, quel est le chemin? Par où ça va passer? Est-ce que ce qui va déverrouiller les situations, c'est l'innovation technologique, par exemple? Est-ce que c'est des changements de fonctionnement de nos États, etc.? Par où vous voyez la solution arriver?
Ouais, moi je pense que c'est beaucoup l'innovation. Honnêtement, je sais que le terme, on est toujours critiqué, on dit « Ah, vous êtes un solutionniste technologique ». Oui. En fait, je suis un solutionniste technologique, c'est-à-dire que je l'assume, en fait, mais sur des bases historiques. En fait, c'est toujours l'innovation technologique qui nous a sortis de nos problèmes. Et donc, je pense qu'il en sera encore une fois de même, parce que vous l'avez rappelé, Emmanuel, tout à l'heure, l'innovation est un processus non linéaire. Il y a des moments d'accélération de l'innovation, et il me semble, on peut en discuter, c'est un sujet d'ailleurs sur la productivité, etc. Vous en parlez souvent dans cette émission, mais moi, je pense qu'on arrive là vers une explosion des gains de productivité, en fait, et qui vont notamment se traduire par des accélérations majeures en matière de décarbonation, par exemple.
La grande menace qu'on pressent dans votre livre, c'est quand même la question autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne va pas perdre le contrôle de l'intelligence artificielle.
Non, ça, je pense honnêtement, c'est un peu un fantasme. Alors là aussi, un intellectuel qui, on aime bien se faire peur, donc l'intelligence artificielle nous menace, va nous exterminer, etc. Honnêtement, je pense qu'on est complètement à côté du sujet. Je pense que le sujet de l'intelligence artificielle, c'est comment on forme les médecins pour l'utiliser aujourd'hui, ce qui leur permettra de faire des gains de productivité, ce qui nous permettra de lutter contre les déserts médicaux. Donc, je pense que c'est d'ailleurs un sujet intellectuellement plus difficile, en fait, que le sujet de l'extermination de l'humanité. Honnêtement, Poutine et les islamistes m'inquiètent plus que ChatGPT de ce point de vue-là.
Pour terminer, Nicolas, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants à l'école pour leur donner confiance en l'avenir ?
À être des généralistes. Ça, je suis absolument persuadé que l'ère... il faut apprendre un métier, hein, évidemment, mais il faut être des généralistes, il faut avoir une vision du monde, et on leur apprend les statistiques, regarder le monde tel qu'il est, la rationalité, la raison, bref, les lumières. C'est ça, il faut revenir aux racines, et en plus c'est un peu notre identité intellectuelle en Europe et en France, revenir aux lumières.
Merci beaucoup à tous les deux, voilà beaucoup de clés si vous les espérez pour finalement bien vivre dans le nouveau monde qui nous attend, avec toutes les nouvelles règles du jeu
Soyez,
qu'il faut entendre.
Soyez pessimiste dans la réflexion, mais optimiste dans l'action, c'est mon métier d'investisseur.
D'accord, c'est pas tout à fait mon métier de journaliste, mais bon, mais comme ça, chacun est à sa place, David. Merci beaucoup à tous les deux, David Bavrès, donc bienvenue en Économie de Guerre, c'est aux éditions Novice, et Nicolas Bouzou, La Civilisation de la Peur, c'est aux éditions XO. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.
BFM Business, La Librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs cette semaine, Belaouda Abdedaïm et Frédéric Simotel. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et le grand animateur des pages livres dans Alternative Économique. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le président et le critique aussi deux livres de la Société d'économie politique qui, rappelons-le, accueille tous les économistes qui souhaitent avoir des débats, des conversations un peu intellectuelles. Jean-Marc fait une revue de livres très courue. C'est un des meilleurs moments de ces réunions.
Je rappelle que la Société a été fondée pour promouvoir le libre-échange, donc il faut quand même avoir...
Tous les économistes libéraux.
Les vrais économistes, ceux qui pensent que le libre-échange...
Mais vous êtes plus œcuménique que ça, Jean-Marc. Mais
oui, il y a les libéraux, les ultra-libéraux.
Exactement.
Toutes les branches du libéralisme économique.
Très bien. On aura dit quelques mots sur la Société d'économie politique. Allez, on démarre avec le choix de Christian, le livre de Benjamin Burbaumer. Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, aux éditions La Découverte.
C'est un livre dont je ne partage pas la conclusion finale, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même à le mettre sur la table. Pourquoi ? Déjà, en termes de méthode, l'auteur s'appuie sur ce qu'on connaît en économie sur la mondialisation, mais il s'appuie aussi sur ce qu'on appelle cette discipline très en vogue chez les anglo-saxons, peu connue chez nous, qui s'appelle l'économie politique internationale. On essaie d'analyser sur la base de ce qu'on connaît en économie les rapports de force entre les États et entre les États et les entreprises privées. Il faudra aussi les rapports de force entre les entreprises privées, mais ça, c'est pas couvert dans le livre. Et en mélangeant tout ça, on essaie de comprendre qui écrit les règles du jeu de la mondialisation. Donc, ce que l'auteur nous dit, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on est en pleine hégémonie américaine, c'est l'alliance entre l'État américain et les firmes multinationales américaines qui écrivent les règles du jeu de la mondialisation. La Chine débarque là-dedans, elle essaie de s'insérer dans cette mondialisation américaine. Là où le livre commence à être intéressant, c'est quand l'auteur nous dit « Oui, mais depuis 10-15 ans, oui. Les Chinois essaient de faire autre chose. Ils essaient de créer une autre mondialisation avec d'autres règles à côté de la mondialisation américaine et on va se diriger vers une fragmentation de la mondialisation. Il y aura deux mondialisations possibles. Une où on sera dans le cadre américain, une où on sera dans le cadre chinois. Mais peut-être qu'avant, il y aura un affrontement entre les deux et un des deux aura gagné. Comment est-ce que l'auteur arrive à cette conclusion ? Je dis, regardez, les Chinois essaient de bâtir des infrastructures de la mondialisation différentes de celles que les États-Unis ont mises en œuvre. Par exemple, des infrastructures physiques. Les routes de la soie, c'est pour montrer qu'on peut faire circuler les biens et les services en dehors des circuits traditionnels de circulation des échanges. Les infrastructures techniques, ça fait plusieurs années qu'on voit des études passées nous montrant comment les ingénieurs chinois entrent dans tous les organismes techniques définissant les standards internationaux pour essayer de prendre la place pour influencer, impulser des standards techniques qui soient plus proches des standards chinois que des standards occidentaux. Regardez les infrastructures numériques. Ah oui, alors les États-Unis nous empêchent d'avoir des puces, mais on va quand même développer nos propres puces. On n'est pas au niveau de TSMC, on n'est peut-être pas au top du top, mais quand même, on développe quand même notre propre capacité numérique. Les infrastructures financières, on essaie de pousser le rôle international du yuan, et puis surtout, peut-être en passant plus par la monnaie numérique, qui est le truc à la mode. La Banque Centrale Chinoise est très en avance sur l'utilisation de la monnaie numérique et sur la possibilité de relier...
Mais ce que vous décrivez, Christian, c'est deux mondes qui se bâtissent en parallèle, finalement,
c'est ça, exactement.
Sans vraiment s'affronter.
Bah, le monde américain est là, et ce que les Chinois essaient de faire, c'est de grignoter ce monde américain en créant des infrastructures différentes, et puis y compris sur le plan militaire, ou en mer de Chine méridionale, les Chinois essaient de prendre vraiment un avantage sur un îlot stratégique vraiment extrêmement important. Alors, l'auteur n'est pas complètement fou, il voit bien que sur chacun de ces domaines, quand il passe en vue, il dit, OK, les Chinois bâtissent quelque chose à côté, ça progresse, mais c'est quand même pas au niveau des Américains. Donc les Américains, les États-Unis, l'hégémonie américaine est toujours la même, nous dit l'auteur à la fin du livre. Attention, l'hégémonie américaine est en train de tomber. Demain, l'économie américaine sera toujours une grande puissance, mais une grande puissance à côté d'autres grandes puissances, notamment la grande puissance chinoise. Et comment ça va se finir tout ça? Est-ce que ça va se finir en guerre ou pas? On verra bien. Bon, ça fait un peu plus de 50 ans que je lis des bouquins sur l'hégémonie, la fin de l'hégémonie américaine. 50 ans après, on est toujours en pleine hégémonie américaine.
C'est un peu comme les films Rocky, c'est-à-dire en gros, à chaque fois, il affronte un adversaire et il gagne toujours.
Voilà.
Alors, il y a eu l'Union soviétique,
Il y a eu le Japon, maintenant il y a la Chine.
Maintenant, il y a la Chine et on nous dit, parce qu'il y a plein de travaux qui disent que la Chine ne rattrapera jamais les États-Unis.
Aussi, mais là, c'est plutôt un travail qui nous dit... Une alternative est possible. Alors,
j'aurais aimé que Christian écrive le livre parce que je suis assez d'accord avec la façon dont il présente les choses, mais c'est pas exactement ce qu'il y a dans le livre.
Ah, si.
Le livre, d'abord, déjà, le titre explique ce que va être le livre, le capitalisme. Vous vous souvenez, François Perroux disait, dès qu'on emploie le mot capitalisme, c'est un mot de combat. On est dans un combat. Alors, l'auteur est dans un combat. Il nous décrit au premier chapitre, donc, la montée en puissance du capitalisme américain de façon totalement complotiste. C'est la commission trilatérale qui a organisé le passage au libre-échange, tout un tas de centres plus ou moins secrets qui se réunissent pour imposer les transnationales américaines, les entreprises transnationales américaines. Enfin, sur la Chine, deuxième chapitre, sur la Chine, il nous explique, vous savez, la libéralisation, c'est une erreur. D'ailleurs, on vous explique que les Chinois, après la libéralisation, sont sortis de la pauvreté. C'est pas vrai. Ils sont plus pauvres qu'à l'époque de Mao Tse-tung. Il y a un moment où ils expliquent, bon, évidemment, on a l'apparence, mais en réalité, si vous prenez tel indicateur, ils sont... Donc, on est dans cette espèce de fantasme qui est un fantasme anti-américain, anti-capitaliste, anti-libéral, qui devient caricatural. Alors après, il y a un chapitre, mais je regrette qu'il n'y ait pas un livre autour de ce chapitre, et Christian en a parlé, c'est sur les infrastructures. Là, il y a une vraie idée qui consiste à dire qu'un des enjeux, c'est les infrastructures, que les nouvelles routes de la soie, ça a correspondu non seulement à un besoin de s'exprimer face aux Américains, mais à un moment donné, il dit, ils se sont tournés, les Chinois, vers les Birmans, parce que pour sortir un certain nombre de produits, s'ils envoient depuis Shanghai, ils sont obligés de contourner la péninsule indochinoise, alors que s'ils envoient par train en Birmanie, vers le principal port de Birmanie, à ce moment-là, effectivement, ils gagnent du temps, de l'argent, du trajet. Et de même sur le Pakistan, ce qui les intéresse dans le Pakistan, c'est le port. C'est pas d'être développé. Et donc, il y a une espèce de logique des infrastructures qu'on ne voit pas. Et ça, c'est une partie qui est assez intéressante. Alors après, effectivement, là aussi, où je rejoins Christian, il y a un chapitre sur le dollar, mais ça fait 50 ans, effectivement, qu'on a exactement ce chapitre dans tous les livres, avec toujours la même conclusion, c'est la fin du dollar, on va en être débarrassé. Ça fait 50 ans que la part du dollar dans le commerce international, dans les réserves mondiales, n'arrête pas de conforter sa position. Donc, c'est un livre, je me suis dit, c'est un peu ce que produit notre université en ce moment, c'est-à-dire un discours gaucho-mondain assez convenu, avec de temps en temps des trucs qui pourraient être davantage utilisés, mais que le gars n'ose pas pousser jusqu'au bout. Pourquoi il nous a fait ce chapitre sur le dollar, dont il sait très bien qu'encore une fois, ça n'a aucun... c'est dépensif.
Parce qu'il se passe des choses quand même.
Non, ce qu'il raconte, non, s'il ne se passe rien dans ce qu'il raconte. Non, et alors qu'il nous aurait expliqué effectivement tous les enjeux qu'il y a dans les infrastructures. Enfin, il dit bien qu'on est quand même très dépendant des transports, très dépendant de l'électricité, très dépendant de tout un tas de choses dont on ne mesure pas l'importance.
Eh bien, on passe à votre choix. Jean-Marc Daniel, le livre de Sylvie Brunel, Sa Majesté, Le maïs, c'est aux éditions du Rocher.
Oui, alors la différence qu'il y a entre ce livre et le précédent, c'est que le précédent considère qu'être savant, c'est être pédant. Au moins, notre amie Sylvie Brunel, elle s'exprime dans une façon extrêmement claire et assez agréable. Donc, elle se concentre sur une matière première, le maïs, ouais. avec un plan assez naturel, l'histoire du maïs, d'où ça vient, le mot maïs. Donc, c'était d'ailleurs pas le mot qui a été adopté au tout début. Parmentier parle de blé de Turquie. Vous savez, on a un jeu, de même que les Anglais sont persuadés que ce qu'on appelle une daine, c'est un oiseau qui vient de Turquie, et Turquie, nous on est persuadés que ce qui vient des Amériques, ça vient de Turquie. Donc le maïs est arrivé sur le tard, maïs en langage précolombien, ça veut dire source de vie. Ouais. Ensuite elle explique à quoi ça sert, elle dit ça sert à énormément de choses, depuis la nourriture des animaux, mais ça sert aussi dans de l'industrie pharmaceutique, on le boit sous forme de bourbon, donc de whisky fabriqué à base de maïs. Bon, ça sert à énormément de choses, et ça joue un rôle très important. Après elle explique d'où ça vient, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que c'est à la fois quelque chose qui est mondial et dont la production est concentrée sur quelques territoires très bien identifiés. Aux États-Unis, qui est le premier producteur mondial, c'est 4 États qui font le maïs, 4 États du nord-ouest des États-Unis. Les principaux producteurs, c'est l'Argentine, le Brésil, les États-Unis et l'Ukraine, avec tout ce qu'il y a eu autour de ça. Et en France, elle dit, le maïs, c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est le sud de la région bordelaise, c'est de là que ça vient. Tout ce... Et puis après, donc, il y a des considérations plus politiques, entre guillemets, sur à la fois la géopolitique, et puis le règlement de compte habituel chez Sylvie Brunel, avec ce qu'elle appelle les tartuffes de l'écologie. C'est-à-dire, elle défend les agriculteurs, c'est un peu sa marque de fabrique contre... Alors, c'est un livre, on apprend beaucoup de choses, sur un produit, effectivement, qui est dans notre vie quotidienne, qui est très agréable à lire. Je dis pas que ça se lit comme un roman. C'est pas, on rentre pas en début de journée. D'accord. Il faut absolument que j'ai fini à la fin de la journée.
Et on apprend plein de trucs sur le maïs.
Mais on apprend plein de choses et c'est très agréable à lire.
J'ai hâte d'avoir l'avis de Christian.
Bah, d'habitude, quand on écrit des hagiographies, c'est des personnages célèbres. C'est la première hagiographie d'une céréale que je trouve dans un livre. Parce que vraiment, et puis c'est à la Sylvie Brunel de ces dernières années, quoi. Le bouquin commence, c'est d'une violence. Si vous pensez un seul instant que vous avez une critique à émettre sur le maïs, c'est que vous êtes un adepte du racisme botanique. Les mots ont un sens quand même. Il faut faire attention. Si les États-Unis n'avaient pas de maïs, ils n'existeraient pas. Les États-Unis n'existeraient pas. Franchement, si les États-Unis apportaient du maïs plutôt que d'en produire, il n'y aurait pas eu les GAFAM, par exemple. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Ça ne sert à rien d'être dans l'exagération. Après, là où je rejoins Jean-Marc, c'est que dans le bouquin, vous avez tel pays en produit pour tel usage, tel pays. Et là, on redevient, le ton se calme, on devient analytique, on apprend des choses, c'est plutôt agréable, et puis on arrive enfin au vrai but du livre. C'est pourquoi, je pense, Sylvie Brunel a écrit le bouquin, c'est que le maïs est un buveur d'eau exceptionnel. Ouais. C'est une plante tropicale qu'on essaie de faire pousser dans une France qui est un pays tempéré. Donc évidemment, moi je reviens de Charente-Maritime, là, donc les maïs, ils sont pas terribles en ce moment. C'est cet été, on va avoir les beaux épis qui vont sortir. Ouais. Mais quand vous regardez sur le bassin Aquitain, j'ai regardé les stats, à ce moment-là, pendant l'été, 90% de l'eau qui est utilisée, 90% de l'eau utilisée, c'est pour les céréales et la quasi-totalité,
ouais, c'est du maïs.
C'est pour le maïs. Ouais. Donc, il y a un vrai conflit sur l'usage de l'eau. Et là, ce livre dit, il n'y a aucun conflit. Il y a un vrai conflit sur les âges de l'eau. Alors moi, je suis pas pour que ce conflit, il soit physique, aussi bien du côté de certains manifestants que du côté de la police. Mais je trouve que quand il y a un conflit comme ça qui est important, faire acte de démocratie, c'est faire de la pédagogie, c'est pas rajouter de la violence verbale à la violence qu'il y a sur le terrain. Et je trouve que c'est dommage, parce que Sylvie Brunel, on la connaît depuis très longtemps, elle a les capacités de faire de la pédagogie, de l'analytique. Et là, elle a fait un pamphlet très violent. Je trouve que pour la démocratie, il vaut mieux de la pédagogie que du pamphlet.
Eh bien, voilà. Très intéressant, vos avis contrastés. Mais chacun a un avis contrasté sur chacun des livres. C'est... Merci, vous êtes formidables, messieurs. C'est là quoi. Bah maintenant, c'est Frédéric Simotel qui va nous parler, vous allez voir, de Georges Pompidou. Et c'est vrai que le portrait est assez passionnant, là encore.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain.
Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Emmanuel.
Notre éditorialiste tech qui nous emmène effectivement. Alors on avait déjà parlé d'un livre de Georges Pompidou pour lui rendre hommage, puisque c'est tout juste il y a 50 ans
qu'il
est décédé. Oui. Voilà. Et on revient sur Georges Pompidou parce que cette fois-ci c'est un ouvrage qui lui est consacré. publié chez Robert Laffont. De quoi s'agit-il, Frédéric ?
Alors, c'est le dictionnaire Pompidou. Alors, c'est le journal, c'est un livre actuel sur un homme du passé. Donc, on a longtemps cru que c'était... Alors, première chose, on a longtemps cru que c'était De Gaulle qui l'avait recruté, cherchant un agrégé en lettres. En fait, non, c'était Pompidou qui avait dit à l'un de ses amis, oh, faut me trouver quelque chose parce que moi je veux pas finir à être prof de latin dans l'université, je veux faire autre chose. Donc voilà, il était arrivé dans la politique. Et c'est ce que nous raconte l'historien Bernard Lachaise, parce que ce qu'il faut voir dans ce livre, donc c'est un dictionnaire. Il y a tout un tas de mots, de noms. Il y a Jacques Chirac, il y a République, il y a Innovation, on y revient dans un instant. Enfin voilà, il y a tout un tas de, voilà, Religion, Rothschild, Pierre Soulages, Union Soviétique. Et chacun de ces thèmes-là est repris par un historien qui raconte un peu l'histoire Pompidou autour de ce thème-là.
On va le vivre là, puisque c'est effectivement, on va le célébrer. Il y a une nostalgie Pompidou qui est aussi une nostalgie de l'époque Pompidou, parce que finalement c'est presque l'apogée des Trente Glorieuses. C'est le moment où après, finalement, tout va se dégrader.
Je pensais à ça, je me disais, la guerre était terminée, fin des années 60, la guerre est terminée depuis seulement 20 ans. Ouais. Vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui, on parlait du début des années 2000. Ouais. C'est quand même un peu fou, hein, parce que c'était une guerre, enfin voilà, on va pas revenir sur tout ça. Mais on voit, la France, elle plie sous le poids des règles, donc c'est lui qui dit à Jacques Chirac qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. On pense qu'il avait un peu perçu, c'est là où je trouve important de parler toujours de la culture, parce que c'était quelqu'un, donc agrégé de lettres, et il aimait la littérature, l'art contemporain, le cinéma de la Nouvelle Vague, et on pense que c'est ça aussi qui lui a permis de comprendre un peu mieux mai 68, donc de comprendre un peu tout ce qui s'y passait. C'était un humaniste, hein, il avait conscience de l'impact de l'homme sur l'environnement aussi, puisqu'il avait dit le moral de l'environnement, l'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Bon, c'est quand même lui qui a poussé à la voiture dans Paris, donc voilà, il avait les pensées qui n'étaient pas toujours en marge avec les actions, et puis il pense que le rôle du responsable politique, c'est d'élever au sens le plus noble du terme les concitoyens. Voilà, on découvre un peu des traits de caractère, alors qui pour des plus jeunes comme moi ne l'ont pas connu.
Alors, on va s'intéresser à une partie de ce dictionnaire, parce que c'était aussi une de ses facettes, et c'est celle dont vous êtes familier, Frédéric, c'est son rapport à l'innovation.
Oui, son rapport à l'innovation, à la lettre I comme innovation. C'est Pascal Griset, je pense qu'il serait intéressant d'inviter un de ces jours, parce que c'est un docteur en histoire, spécialiste en histoire des innovations, et puis qui nous dit que, Pompidou, c'est lui qui a permis aux Français de se projeter avec confiance dans la modernité économique et technologique. Il voulait moderniser la France, il fallait que ce soit une puissance crédible. Pas de puissance sans industrie, et pas d'industrie sans recherche. Voilà, il voulait faire ce lien entre recherche, innovation, croissance. C'est ce qui va inspirer sa démarche. Il va le dire devant les élèves de Centrale en octobre 69. Dans la France de 69, les responsabilités des ingénieurs ne doivent pas seulement être individuelles ou professionnelles, mais au premier chef, nationales. Nous ne devons pas être un pays de musée ni de lieu de pèlerinage. Ça doit passer par le développement.
J'ai une question, Frédéric. Je sais pas si vous pourrez répondre. Est-ce que Georges Pompidou aurait flingué l'internet français comme l'a flingué Valéry Giscard d'Estaing?
Je ne pense pas, parce que je pense qu'il avait vu. Je prends juste quelques noms. En 59, rénovation du CNRS. En 64, il participe à la création de l'INSERM, et surtout en 67 à la création de l'IRIA. C'est l'Institut de recherche en informatique et en automatique qui deviendra l'INRIA. Il ne croit pas au nationalisme technique. Il croit à une collaboration interpays, plutôt européenne. Alors, il y a quand même eu l'échec du plan calcul. Mais derrière, lui, il croit à l'informatique européenne. C'est pour ça que je dis que peut-être, nous, notre Minitel est resté un peu français. On aurait peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus important. Et c'est sous sa présidence que naquirent quand même Airbus, Ariane, et que fut lancé le premier grand programme nucléaire civil français. Après, au niveau économique et sur d'autres points, je vous laisse commenter. Mais en tout cas, c'est un livre intéressant pour ceux qui veulent mieux connaître.
Et remettre en perspective, effectivement. Ce personnage d'une épaisseur intellectuelle certaine.
Et puis qui parlait un français toujours épuré, qui s'adresse à des paysans du Cantal ou à la télévision, à l'ensemble des Français.
Merci beaucoup Frédéric Simotel, et on retrouve maintenant Benaouda Abdedaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Ben Aouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Pologne dans le marché unique de l'Union européenne.
Oui, fin avril, une ministre polonaise a procédé à un détail comment depuis l'adhésion, il y a maintenant 20 ans à l'Union européenne, son pays, devenu maintenant la sixième économie de ce bloc, a reçu trois fois plus de fonds européens que ce qu'il a versé au budget de Bruxelles. L'exact contraire, donc, selon cette ministre, de ce que prétendent en Pologne les adversaires de l'Union. La FWG, qui est la Fondation pour la Liberté Économique à Varsovie, va bien au-delà de ces montants transférés. Elle vient dans un rapport vraiment étayer l'ampleur des effets économiques de cette entrée dans le marché commun des 27. Les bénéfices de cette présence dans le marché unique, évalués par Marek Tatala et ses co-auteurs, seraient au moins 5 fois supérieurs aux bénéfices liés aux diverses subventions de l'Union européenne. Donc, vraiment un effet multiplicateur extraordinaire. Dans leur analyse, si le produit intérieur brut par habitant des Polonais se rapproche à présent de celui des Espagnols, c'est aussi en bonne partie grâce à ce marché unique qui permet aux biens, aux services, aux capitaux et aux personnes de circuler sans entrave. Les trois quarts des exportations et plus de la moitié des importations de marchandises en Pologne s'effectuent à présent au travers de ce cadre européen. Dans l'agroalimentaire, par exemple, les débouchés en valeur sur deux décennies ont été multipliés par 9. Mais ce que mettent également en exergue ces experts polonais, c'est comment de la sorte les prestataires de services de leur pays ont également vu leur activité européenne croître très fortement. Et à tous ceux qui assurent que le salut viendrait un jour des États-Unis, les auteurs soulignent que les 9 dixièmes des investissements directs étrangers sont issus d'un pays de l'Union européenne. Ensuite, dans un chapitre de recommandations pour améliorer l'existant, les spécialistes de la FWG préconisent notamment d'aller vers des charges réglementaires par secteur, un passage en revue total, similaire à celle en vigueur dans les trois États de l'Union européenne, ayant la réglementation la moins lourde, en faire y compris un axe politique de Varsovie à Bruxelles à défendre, assouplir les réglementations qui génèrent, disent-ils, des coûts excessifs pour l'entreprise et pour le consommateur.
Direction la Serbie, Ben Aouda, maintenant, où on s'intéresse aux relations contemporaines qu'entretient la Serbie avec la Chine et aussi avec la Russie.
Oui, la semaine dernière, l'État serbe, juste après le voyage de Xi Jinping à Paris, a réservé un accueil particulièrement enthousiaste au président chinois. La Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de la Serbie, derrière l'Union européenne. Un accord de libre-échange a été conclu avec Pékin, c'était en octobre dernier, et deux mois plus tard seulement, un arrangement entre les banques centrales a été pris pour traiter en yuan, en devise chinoise. Elena Jovicic et Darko Marjanovic, qui sont de l'Institut des sciences économiques de Belgrade, ont examiné ici et comparé dans une publication académique serbe, les dynamiques des échanges de biens et d'investissements de leur pays avec la Chine et la Russie. C'est un travail qui est sur 10 années de données, de 2013 à 2023. Il en ressort une accélération sur les 5 dernières années, aussi bien avec les Chinois qu'avec les Russes. Les courbes de progression s'avèrent parallèles, mais les liens économiques en volume et en intensité n'ont plus grand-chose à voir. Ceux avec la Chine se situent largement devant. En 2019, les investissements directs étrangers chinois en Serbie ont été sur l'année de 345 millions d'euros. Au cours du seul premier trimestre 2023, ils ont atteint près de 820 millions. Mais ces deux économistes de Belgrade considèrent que les montants, que ce soit avec la Chine ou avec la Russie, demeurent loin du potentiel. Les données analysées attestent que les exportations serbes vers la Chine restent trop peu diversifiées, concernent principalement des produits à faible valeur ajoutée, essentiellement des scories, cendres et résidus de métaux, presque 80%, là où les Chinois vendent aux Serbes toutes sortes d'équipements à haute valeur ajoutée. Les auteurs jugent en conclusion la période propice, vraiment propice, pour faire des affaires aussi bien avec les Chinois que les Russes, que les Européens. Belgrade pense pouvoir jouer à cet égard sur tous les tableaux.
Et on termine avec un travail de recherche iranien, Ben Aouda, sur la géostratégie indo-pacifique et la position de l'Iran.
Oui, c'est une réflexion qui a été publiée par l'Institut d'études politiques internationales de Téhéran, qui est affilié au ministère iranien des Affaires étrangères. Elle est rédigée par Mariam Varish-Kazemi, qui est une spécialiste des questions stratégiques maritimes à Téhéran. C'est une grille de lecture iranienne, en effet, que l'on pourrait mettre en rapport avec la conclusion en début de semaine d'un accord cadre de long terme signé entre l'Iran et l'Inde pour le développement et l'exploitation par les Indiens d'un port stratégique iranien qui donne sur la mer d'Oman. Cette chercheuse dispose que cet espace indo-pacifique, qui s'étend de la côte ouest des États-Unis jusqu'à la façade est du continent africain, est le centre du pouvoir géopolitique mondial, ce que personne ne contestera à Washington. Mariam Varish-Kazemi en prend l'ensemble des facteurs. 9 ports parmi les plus fréquentés au monde, 60% des flux commerciaux maritimes internationaux, la moitié des émissions de gaz à effet de serre, etc. Dans le grand jeu de l'Indo-Pacifique, écrit-elle, elle estime que c'est le positionnement vis-à-vis de la nouvelle Chine qui détermine tout, où chacun dans cette configuration essaie d'en tirer, je cite, un maximum d'avantages, l'Iran également, en tenant compte des tensions grandissantes entre les États-Unis et la Chine d'une part, et entre la Chine et l'Inde d'autre part. Alors pour ce qui concerne son pays, cette chercheuse iranienne pense que son ouverture sur les eaux du Golfe Persique et sur la mer d'Oman lui offre un atout commercial tout à fait déterminant. Ils vont ensuite, d'après cette démonstration, renforcer les infrastructures portuaires et de transport, moderniser la flotte navale iranienne, établir des bases logistiques en mer. Et ainsi, l'Iran pourrait neutraliser, je cite, les défis posés par les concurrents stratégiques et se donner les moyens de stabiliser et développer son économie.
Merci beaucoup, cher Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Allez, c'est l'heure de notre dernière sélection. Jean-Marc Daniel, pour aujourd'hui, qu'avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi le tome 4 d'une série que nous aimons quand même.
Oui, je crois qu'on a salué la sortie de...
Et donc, le tome 4 est une bonne nouvelle.
De chacun.
Et donc, c'est Sylvain Bersinger qui fait Les Entrepreneurs de Légende. Donc, dans ce tome 4, on retrouve ce qu'on avait un peu comme méthode dans les tomes précédents, un portrait, à la fois un portrait personnel, et puis ensuite l'histoire de l'entreprise qui a été créée par ces entrepreneurs de légende. Alors, cette fois-ci, ça commence avec Dupont de Nemours, on passe par...
Ah, c'est les étrangers, c'est pas les Français.
Dupont de Nemours, il explique que c'est à la fois... Bon, alors il y a des étrangers, parce qu'il y a Toyota, la famille Toyota, il y a les fondateurs de Dell, en fait, il y a effectivement... pas mal d'étrangers cette fois-ci.
Parce qu'il a une double série, il a les grands entrepreneurs du monde et les entrepreneurs français.
Oui, alors là, c'est les entrepreneurs des légendes, là, c'est plutôt...
Il a une série sur les femmes aussi, entrepreneurs.
Il en a fait un.
Absolument. Et alors, c'est toujours effectivement très agréable à lire, c'est dans un style très percutant. Non, c'est évidemment une série qu'on appelle à poursuivre, à prolonger et à soutenir.
Et qui rend optimiste.
Absolument.
Voilà, Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui.
Une petite série aussi dans les bouquins Librio à 5 euros, les livres à 5 euros. Ils viennent de sortir un ensemble de petits bouquins sur un événement en chiffres et en date. Enfin, en date et en chiffres plutôt. Et moi, j'ai bien aimé celui sur la Révolution française. Alors, évidemment, sur des événements aussi foisonnants, eh bien, on connaît à peu près tout, mais c'est bien de pouvoir se repérer date après date. Ils ont réussi à donner des informations économiques, sociales, politiques. Il y a des stats, il y a des tableaux. Il y a des schémas explicatifs. Franchement, je trouvais que, bon, alors il n'y a pas de grande révolution intellectuelle, mais au moins, on a un petit manuel pédagogique à côté de nous qui est fort utile.
Eh bien, je les ai, figurez-vous, Christian, ces petits opus. Alors, effectivement, vous avez cité celui sur la Révolution française en chiffres et en dates. Il y a aussi la guerre froide en chiffres et en dates. Et puis, il y a les deux guerres mondiales, la première... la seconde, et c'est vrai qu'effectivement ça a vocation à être surtout un outil très pédagogique pour étudiants, écoliers, et c'est effectivement très bien fait. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture.